BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech & Co Business. Sur BFM Business, on va beaucoup parler, devinez quoi, d'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Dans un instant, je reçois le DG France de SAP pour justement voir SAP, mais de l'IA partout dans ses applications métiers. Nous verrons ça avec lui. Nous verrons aussi quel est le niveau de maturité de l'IA dans les directions financières. Ce sera une étude de KPMG qui est sortie. Et d'ailleurs, on restera dans ces directions financières avec celle de Schneider Electric, celle de Saint-Gobain, qui accélère leur digitalisation et leur passage à l'intelligence artificielle. Et intelligence artificielle, il y sera aussi beaucoup question dans le débrief avec nos experts. On va vraiment tout revoir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quels sont les business models des IA? Est-ce que les entreprises gagnent vraiment en productivité? Voilà, vous allez découvrir tout ça avec nos experts. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Notre invité, on est très heureux de l'accueillir, Olivier Nolan, PDG de SAP France. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Olivier, alors ces grands mouvements IA chez SAP, comme chez beaucoup d'éditeurs, vous êtes au cœur des systèmes d'information des entreprises aujourd'hui. Alors il y avait votre double événement, un événement mondial à Orlando, Sapphire, et puis un Sapphire édition européenne à Barcelone, c'était il y a à peine quelques jours. Donc beaucoup d'annonces dans ce domaine, beaucoup d'annonces autour de l'IA. On rappelle à peu près ces 8 transactions sur 10 dans le monde qui passent par des logiciels SAP, vous avez 24 000 clients qui utilisent l'IA, et des investissements importants, 6,3 milliards d'investissements R&D sur l'année 2023. On imagine beaucoup sur l'IA, mais évidemment beaucoup aussi sur l'ensemble de vos plateformes. Alors, première question, comment vous jugez, les entreprises ont déjà bien implémenté du SAP, montant en gamme, en version, et leur maturité par rapport à l'IA aujourd'hui?
Alors déjà l'IA, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas complètement nouveau. Hein. Ça fait 10 ans qu'on fait de l'IA chez SAP. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on parle de l'IA générative,
oui, en fait, qui a accéléré un peu le mouvement.
Qui accélère le mouvement et qui démocratise le mouvement aujourd'hui. Donc l'IA pour SAP, c'est déjà intégré dans beaucoup de solutions. Vous le rappelez, on a déjà 24 000 clients qui utilisent l'IA. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on infuse l'IA générative dans toutes nos solutions petit à petit et qu'on travaille avec nos clients pour permettre encore d'accroître la productivité des entreprises grâce à l'infusion de cette IA.
Si vous aviez 2-3 exemples quand on dit SAP met de l'IA dans ses applications métiers, ça veut dire quand? On reviendra ensuite sur l'assistant virtuel aussi.
Plusieurs exemples. Alors, on a annoncé l'an dernier notre copilote qui s'appelle Joule chez SAP. Ce qu'on a annoncé à Sapphire, c'est qu'on implémente Joule dans toutes les solutions SAP. Donc, SAP, c'est derrière tous les processus critiques.
Donc Joule, c'est l'assistant virtuel. Voilà.
Joule, c'est l'assistant.
On est utilisateur SAP, on lui pose plein de
questions. C'est l'assistant, c'est le copilote de SAP. Ça change fondamentalement les choses parce que ça change la manière que l'on a d'interagir avec nos solutions. Donc, on peut interagir en langage naturel. Et évidemment, ce copilote, c'est aussi un assistant et un analyste, en fait, puisqu'il va permettre aussi de préconiser des actions, de fournir des analyses à nos utilisateurs. Donc, c'est une évolution extrêmement importante. Le deuxième axe que l'on a, c'est qu'on infuse de l'IA générative au cœur des processus. Donc, ce qu'on a annoncé également à Sapphire, c'est que on allait d'ici la fin de l'année avoir 100 processus intégrés powered par l'IA générative d'ici la fin de l'année, et en fait ce sera à 80% des éléments qui vont permettre d'améliorer la performance des entreprises, à 20% qui vont permettre d'accroître les revenus des entreprises.
Et est-ce que ça accroît aussi l'étendue des utilisateurs, parce que beaucoup utilisent, mais bon, dans la fonction finance, dans la fonction RH, dans la fonction supply chain, voilà, ils utilisent ces logiciels SAP, mais du coup est-ce que on peut avoir davantage d'utilisateurs dans ces différents métiers-là qui vont utiliser SAP grâce à l'IA générative et grâce à ce côté langage naturel?
Ouais. C'est ce que j'expliquais avec la logique de copilote, en fait. C'est vrai que, on va dire que par le passé, les systèmes de gestion n'étaient peut-être pas forcément les plus conviviaux, les plus ergonomiques. Donc ça, forcément, ça révolutionne la manière qu'on interagit avec ces systèmes. Et par nature, ça va augmenter la capacité d'interagir. On aura besoin peut-être un peu moins formé pour utiliser ces logiciels. Donc oui, le nombre d'utilisateurs potentiels des solutions va forcément augmenter grâce à ces nouvelles technologies.
Et on a vu, alors vous avez, il y a eu beaucoup de signatures annoncées, hein. Alors vous êtes des partenaires historiques d'AWS, mais là on voit Meta, Mistral, Google Cloud Platform, enfin, voilà, et même Nvidia qui viennent rejoindre un peu tout votre écosystème de partenaires.
Exactement. En fait, on se positionne dans un écosystème ouvert chez SAP. On a fait le choix de ne pas développer notre propre LLM. Oui. Et en fait, on travaille avec les meilleurs sur chacun des processus sur lesquels ça fait du sens. Donc en effet, on a annoncé dernièrement un partenariat avec Nvidia. Ce partenariat, pour être très concret, en fait, il va nous permettre d'intégrer dans Joule la capacité d'accompagner les développeurs, une population extrêmement importante, donc pour accélérer le développement et le paramétrage de nos solutions. On a également annoncé un partenariat avec Google dans le domaine de la supply chain. On travaille beaucoup sur la résilience des supply chains chez SAP. Et en fait, on va marier les solutions Google et SAP pour permettre particulièrement d'optimiser, par exemple, les réapprovisionnements pour une entreprise. Et vous l'évoquez... Et vous l'évoquez aussi, Mistral. Moi, c'est un partenariat qui me tient particulièrement à cœur en tant que patron de la filiale française. Tout le monde connaît Mistral en France. Et donc, on va permettre à nos clients aussi d'utiliser les technologies Mistral pour optimiser leur processus.
C'est-à-dire, concrètement, pour un client, vous allez lui proposer, voilà, selon son besoin métier, d'utiliser du Mistral, d'utiliser d'avoir une solution Mistral Nvidia, ou d'avoir une solution, enfin, voilà, comment ça se passe ?
Il y a plusieurs aspects. Je vous parlais des processus qu'on intègre directement dans nos solutions. Là, SAP fait le choix, en fonction du processus, d'aller travailler avec la meilleure technologie, la plus pertinente pour le use case considéré. Et après, on a chez SAP quelque chose qui s'appelle la business technology plateforme, en fait, qui est la plateforme technologique
où on va mettre les API et tout
ça. On va mettre l'intégration, on va mettre effectivement on a un hub d'intelligence artificielle, en fait, et dans lequel on va pouvoir permettre à nos clients très naturellement d'utiliser les LLM de Mistral et d'autres du marché.
Vous sentez une crainte quand même par rapport à cette IA qui vient un peu bouleverser les processus, alors que ce soit chez vous, hein, puisqu'on a parlé d'emplois supprimés aussi en janvier chez SAP, on dit c'est à cause de l'IA, mais de la même façon chez dans d'autres entreprises.
Alors déjà, j'aime bien rappeler que l'IA aujourd'hui, quand on regarde les analyses, Morgan Stanley, McKinsey, on parle d'un incrément de richesse de 4 000 milliards.
Ça, c'est les études. De productivité, d'automatisation.
Ça, c'est le PIB de l'Allemagne, donc c'est quand même assez, assez conséquent. Nous, on voit l'IA plutôt comme étant une accélération de la productivité, et on voit aussi l'IA comme une capacité d'augmenter, en fait, les utilisateurs, les employés des entreprises. Donc on est après, bien évidemment, il y a des inquiétudes par rapport à l'IA et
sur la donnée, sur son emploi, son job.
Oui, exactement. Et en fait, chez SAP, on est leader de la tech européen, donc on est très soucieux de l'éthique, en fait, de l'IA. Donc nous, on s'est doté il y a quelques années déjà d'un comité d'éthique pour s'assurer que les solutions qu'on met à disposition de nos clients soient dans les meilleurs standards d'éthique et qu'on on soit responsable, en fait, par rapport à l'IA qu'on met à disposition de nos clients. En fait.
Oui. Et ça, on sent quand même que c'est une musique qui commence à arriver, hein. C'est autour de l'éthique, de l'IA responsable. On entend ça même chez les... j'entendais Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui le dit aussi, hein, malgré toute la puissance de Nvidia aujourd'hui. Bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Olivier Nolland. Je rappelle, vous êtes PDG de SAP France. Alors, il y a beaucoup d'annonces. Allez sur le site Sapphire, il y avait Orlando, il y avait Barcelone. Beaucoup d'annonces. Ces accords, vous l'avez rappelé, avec Mistral notamment. Et on va suivre ça, cette installation progressive dans les entreprises. Merci d'être venu nous parler de tout ça. On va rester un peu plus ou moins dans le domaine que vous connaissez bien, la fonction finance. On va repartir à Viatex. On avait interviewé Xavier Nifle, qui était l'associé audit digital innovation chez KPMG. On le retrouve tout de suite à Vivatec.
BFM Business Partenaire.
BFM Business, Tech & Co Business, la chronique expert.
Allez, on se retrouve dans Tech & Co Business avec notre invité suivant, Xavier Nifle. Bonjour, Xavier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes associé audit spécialiste du secteur de la tech, hein, chez KPMG. On va parler d'une étude qui c'est une étude, en fait, de l'impact de l'IA dans les directions financières. Hein. 1800 entreprises interrogées au niveau mondial, 100 en France. Donc voilà. Donc ça, il y a quand même un bon élément de beaucoup de chiffres dans tout ça. Quels sont Voilà, parce qu'il y a pas mal de chiffres. Vraiment. Quelles sont les deux tendances fortes, Xavier, que l'on peut retenir de cette étude ? Donc, faites, je le rappelle, impact de l'IA sur ces directions financières.
Alors, deux principales tendances. 72% de ces 1800 entreprises de plus de 500 millions de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment les plus grosses entreprises, en France comme à l'international, deux tendances, 72%, donc près de trois quarts, ont déjà déployé des pilotes IA ou voire même sont beaucoup plus matures et utilisent l'intelligence artificielle dans la préparation de leur reporting financier et demain extra-financier. Donc ça, c'est la première tendance. Et la deuxième, c'est que plus vous êtes gros, plus votre direction générale a donné une impulsion très forte à toutes les directions, y compris la direction financière, et avec un budget qui est conséquent. 10% du budget IT est dédié aujourd'hui à l'intelligence artificielle, à des projets IA, et demain, ce budget est amené à croître de manière significative.
Et alors, Xavier, quand on parcourt cette étude, est-ce que ça nous donne un bon indicateur sur le niveau de maturité justement de ces directions financières par rapport à l'usage qu'elles font de l'IA ?
Alors, on a mesuré exactement le degré de maturité, finalement, de ces 1800 entreprises. Il ressort qu'un quart de ces entreprises sont à une réflexion, j'allais dire, sur quelques projets de développement et d'IA. Donc, ils débutent leur réflexion. La moitié ont déjà déployé certaines solutions pour faciliter la production de leur état financier. Et un quart sont vraiment en avance. L'entreprise à une taille importante, notamment les entreprises de plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, plus elles sont avancées et plus elles ont, by the way, un budget dédié à l'IA qui est conséquent, qui peut monter jusqu'à 13%.
Et sur la centaine de Français, on est dans la bonne moyenne plutôt ?
Alors, les Américains, évidemment, sont en avance par rapport aux Français, mais on est mieux, par exemple, qu'en Asie-Pacifique. Donc, il y a les budgets. Je pense que les directions générales françaises se sont emparées du sujet et ont demandé aussi à leur direction financière d'identifier ce qui pouvait être fait.
D'aller assez vite sur ce côté-là. Et d'ailleurs, on le voit au Salon Viva Technologie. Je pense que des patrons qui viennent voir ici vont tout de suite aller voir leur direction financière, direction digitale, pour leur dire il faut foncer, avancer vite. Quels sont les bénéfices que l'on peut relever justement de cette étude, l'apport de l'IA, quels sont les bénéfices de cet apport de l'IA pour ces directions financières ?
Alors, il y en a principalement deux. Le premier, c'est d'analyser les tendances. Donc, l'IA permet d'identifier, être plutôt en mode prospectif plutôt que rétroactif. Et en particulier, on a déjà certains clients qui utilisent des solutions de revenu forecasting ou de cash forecasting pour préparer, faciliter la production de leur business plan. Donc ça, c'est un premier bénéfice que seule l'IA peut proposer. Le deuxième, c'est d'adresser l'un des enjeux majeurs des directions financières, c'est l'identification à des signaux faibles.
Oui.
Et à ce titre, chez KPMG, on vient de lancer une nouvelle solution de transaction scoring. On s'est associé avec le leader mondial de l'intelligence artificielle pour l'audit, qui s'appelle Mindbridge. On a co-développé une solution qui permet de capter les transactions les plus risquées, que ce soit d'origine frauduleuse ou d'erreur. Et ça, c'est assez unique et seule l'IA nous permet de le faire.
Eh bien, merci Xavier Niffle d'être venu nous parler de cette étude. Vous êtes associé audit sur le spécialiste du secteur et spécialiste du secteur de la tech chez KPMG. Et donc, cette étude que vous retrouverez sur le site de KPMG, c'est une étude sur l'impact de l'IA sur les directions financières et sur les auditeurs aussi. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de choses à apprendre. Étude réalisée, je le rappelle, auprès de 1800 entreprises, dont une centaine en France. Donc, voilà, on a aussi cet aspect national qui est repéré dans cette étude. Merci de nous avoir suivis, mais on se retrouve juste après cette courte pause. BFM Business et Tech & Co Business continue.
BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
L'invité, ils sont deux, en fait, puisqu'on va continuer à parler, évidemment, de tout ce qui est en train de secouer un peu la fonction finance et la digitalisation. Ça fait un moment. L'optimisation des processus, on va en parler. Et puis, bien entendu, l'arrivée de l'intelligence artificielle. On va en parler avec, il y avait quelques jours, c'était les prix de la digitalisation de la fonction finance. On a deux lauréats, le prix innovation avec Schneider Electric et le prix efficience avec Saint-Gobain. Et nous accueillons donc Natalia Philogène. Bonjour.
Bonjour.
Natalia, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du contrôle interne chez Schneider Electric et donc prix innovation de ces prix de la digitalisation de la fonction finance. Et Mathieu Leviste, bonjour.
Bonjour.
Mathieu, vous êtes directeur du centre d'excellence Process Mining chez Saint-Gobain et donc ce prix d'efficience dans la digitalisation de la fonction finance. Je vais démarrer avec vous, Natalia. Chez vous, l'innovation, on sait que chez Schneider Electric, ça fait pas mal d'années que l'on vous suit dans cette transformation digitale. Et là, c'est le déploiement d'un chatbot, c'est ça, dans la direction financière. Il a un nom ou pas d'ailleurs ?
Le chatbot finance,
On l'a fait simple. Ouais. Alors expliquez-nous un peu cette démarche que vous avez mise en place au sein de Schneider Electric.
Donc déjà, pour remettre les choses en contexte, mon job, c'est de rendre le contrôle interne intéressant.
Oui.
Et c'est un sacré challenge.
Oui.
Donc le but, c'est que chacun de nos collaborateurs comprennent le rôle qu'il ou elle joue dans la maîtrise des risques de l'entreprise et que ça redevienne un réflexe.
Collaborateur Schneider.
Hein,
pas juste ceux du contrôle interne et de l'aviation finance.
Schneider, et que donc ça devienne un réflexe au quotidien. Et l'intelligence artificielle générative, avec le chatbot finance, est un des leviers qu'on a activé pour mener cette transformation.
Mmh.
Avec deux objectifs principaux. Donc simplifier la vie des collaborateurs et dynamiser la fonction. Simplifier la vie des collaborateurs parce qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir des réponses immédiates à toutes les questions qui se posent sur le contrôle interne ou la conformité.
Vous avez digitalisé, ça fait un moment que tout ça est numérisé, bien entendu, mais vous avez regroupé tout ça dans une base de données, je ne sais pas tous les rapports,
pour qu'on puisse poser ces questions
en langage naturel, à une base documentaire.
On a une base documentaire, 3000 blocs d'informations qui ont été ingérés. Et donc, toutes les questions... Donc, ça peut être des questions très, très larges, comme qu'est-ce que c'est que le contrôle interne, pourquoi c'est important, à des trucs plus pointus, dans le quotidien, où est-ce que je peux trouver la politique cybersécurité, est-ce qu'il y en a une, quels sont les principaux risques, encore plus pointus, comment est-ce qu'on reconnaît le revenu d'un business software chez Schneider.
D'accord.
Donc, c'est vraiment la base documentaire de Schneider Electric.
Et alors, comment vous êtes garanti qu'il n'y avait pas... On sait que cette IA générative, elle est sujette à certaines hallucinations. Alors là, vous travaillez sur vos données, donc a priori, elle n'est pas allée chercher à côté, elle ne va pas nous sortir des sottises. Mais quand même, il peut y avoir des réponses qui sont plus ou moins inappropriées.
Oui.
Donc, comment on décèle ça ?
Donc, on a travaillé avec le hub AI de Schneider, qui source tous les cas d'usage de Schneider Electric pour étudier la faisabilité et l'intérêt du projet. Et donc, nous, on arrive en tant qu'experts pour bâtir le cas d'usage, poser les questions, faire tous les tests avant que ce soit déployé.
D'accord.
Donc, on est dans une démarche d'amélioration continue parce qu'aujourd'hui, vous posez une question... La réponse ne vous convient pas, elle est un peu bizarre, vous pouvez
un petit pouce, et puis
ça remonte. Et nous, en tant que fonction, on récupère ça tous les mois, on analyse pour voir d'où vient le problème et le résoudre avec...
Et alors, je reviendrai dans un instant sur le côté attractif de la profession, mais je lisais aussi que en installant ce chatbot, ça a favorisé aussi davantage le partage de connaissances. Vous le disiez tout à l'heure, chaque collaborateur était un peu plus conscient des risques sur lesquels
c'est une amélioration incroyable, géniale de mon point de vue, de l'expérience utilisateur. Donc vous n'avez plus besoin de parcourir les bases documentaires ou aller poser des questions à tout le monde. Donc en ce sens-là, c'est partage de connaissances et plus de collaboration parce que c'est beaucoup plus facile de discuter de choses que vous avez trouvé grâce au chatbot, et ça enlève tous les freins de je veux pas dire que j'ai pas la réponse, donc je vais pas aller poser la question, etc.
La mise en route du projet, ça se fait en combien de temps à peu près?
La mise en route du projet, pas très longtemps, ça a mis 2-3 mois à développer. Ce qui prend du temps, c'est de structurer la donnée, d'avoir des données propres
ce qu'on appelle le RAG.
Voilà, bien structuré, et après on plug juste l'IA dessus.
Alors, et on revient dans un instant sur les métiers, justement, tout ça commence à dynamiser la fonction, vous l'avez dit en introduction. Mathieu Leviste, donc directeur du Centre d'Excellence, alors Process Mining, optimisation de processus. Vous, c'est ce projet-là qui a été mis en avant, notamment avec, c'est l'éditeur Celonis, avec lequel vous avez travaillé. Je vous laisse nous dire un peu 2-3 cas d'usage un peu exemplaires par rapport à ce que vous avez mis en place.
Oui, en fait, on utilise le Process Mining au sein de Saint-Gobain depuis 2017. Donc c'est, on va dire, une technologie qui est bien entraînée, on va dire, dans le groupe. Donc sur un use case qui était d'audit interne et purement de conformité. Et il y a quelques mois, un an et demi environ, on s'est dit, et pourquoi pas plus ? Pourquoi ne pas faire du process mining un vrai outil de performance opérationnelle, d'aider nos collaborateurs à améliorer leur façon de travailler ? Et donc on s'est lancé sur une multitude de cas d'usage, vous l'avez dit. Donc par exemple, la façon dont on paye nos fournisseurs, le traitement de la facture fournisseur, ou comment on traite nos commandes de clients.
C'est des processus qui était traité de façon classique et vous avez dit on doit réussir à l'optimiser et donc là on va mettre un logiciel spécifique pour bien suivre la tâche et voir Quels sont les points d'amélioration, les points de friction, les points d'amélioration,
c'est ça l'idée ? En fait, ce sont des processus qui sont déjà digitalisés, mais la façon dont ça a été digitalisé, la façon dont on utilise les outils peut être améliorée. Mm-hmm. Donc, ça peut être de la configuration, ça peut être du change management, mais positionner un outil qui va exploiter les données de ces outils-là nous permet d'avoir la visibilité sur ces process et sur potentielles inefficacités.
Et derrière, on a des indicateurs. Enfin, comment vous mesurez que justement ça se passe mieux au-delà de la satisfaction utilisateur? Enfin, peut-être que ça fait partie aussi des indicateurs. Mais
oui, alors pour chacun des use cases, en fait, on va définir des indicateurs. Donc, si je reprends l'exemple du paiement de nos fournisseurs, ça peut être le paiement à l'heure ou en retard de nos fournisseurs, notre capacité à payer nos fournisseurs à l'heure. Mm-hmm. Ça peut être des temps de cycle, donc combien de temps on met pour gérer une commande client jusqu'à la livraison du client, ce genre de choses.
Et alors, vous dites, je disais, ça permet de faire la finance un véritable partenaire pour les autres fonctions du groupe, c'est ça?
Oui, c'est un
défi. Tout le monde a un peu comme avec l'IA et ce chatbot financier, ouais. Voilà, on peut venir voir un peu, enfin poser des questions en tout cas sur ce.
Exactement, et l'idée c'était de rapprocher un petit peu les fonctions, et particulièrement la fonction financière des autres fonctions et des autres métiers. Fonction financière qui peut parfois être vue un petit peu comme l'ultime contrôleur, oui, on va dire, des métiers. L'idée c'était vraiment d'apporter quelque chose en plus aux autres métiers d'un point de vue performance, et donc de devenir effectivement un business partner.
Et là on en arrive, Natalia Philogène, chez Neritrix, sur justement la dynamisation, parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Tout le monde veut attirer des talents un peu partout, dans toutes les directions. Et c'est vrai que quand on parle direction du contrôle interne, on se dit, oulala, je vais être dans un univers austère. Il faut que je passe par là pour connaître un peu les arcanes de l'entreprise, mais on ne s'y voit pas faire carrière, alors que pourtant, l'IA vient dynamiser tout ça.
Ah oui, ce chatbot en interne a eu un impact incroyable. De pouvoir démontrer, enfin d'être précurseur sur le développement d'un chatbot. Et on n'associe pas toujours innovation et contrôle interne. Et donc, moi, je suis convaincue que les personnes sont essentielles à la transformation de l'entreprise.
Oui, bien sûr.
Et donc, l'innovation est un atout, c'est un aimant clé d'attraction, enfin, pour attirer, oui, oui, et retenir les talents. Et ça, je le vis au quotidien. Vraiment, on est dans une conduite de changement, et ça change la perception que les collaborateurs ont du contrôle interne aujourd'hui chez Schneider.
Et ils peuvent comment ça se passe, que vous disiez, il y a un rapport étroit avec le hub AI de, oui, de Schneider Electric, hein, qui eux sont vraiment sur la partie socle technique, oui, socle opération, enfin l'opération c'est chez vous, mais toute la partie et donc il y a ce lien fort aussi entre les développeurs de tout ce de
tout à fait activité, et donc au sein de la fonction finance, on a ouvert la voie à d'autres fonctions, donc qui sont en train de maintenant de développer leur cas d'usage pour travailler avec ce hub AI pour agrandir le champ de ce chatbot.
Et vous avez évalué un peu la même question que je posais à Mathieu Levis, c'est les indicateurs. Est-ce que vous avez des KPI qui vous permettent,
oui, alors,
de dire voilà, bah tiens, grâce à ça, on répond plus vite, les gens ne perdent pas trop de temps non plus à poser plein de questions, parce qu'on peut être tenté, hein, avec ces,
donc, ce qu'on de jouer suit, un peu avec ces, oui, outils. Ce qu'on suit, donc il a été lancé en mars de cette année. Ouais. Donc depuis on suit, on a des objectifs. Donc on a déjà plus de 1000 utilisateurs actifs, et donc on suit le nombre d'interactions. Et donc on est à 4500 interactions, mm-hmm, et le taux de précision. Donc aujourd'hui on est à 95%, et donc c'était notre objectif. Donc après, ce sur quoi on a travaillé, c'est le taux d'adoption. Donc on est vraiment en roadshow pour parce que l'IA, on en parle beaucoup, mais oui, vraiment, enfin
oui, il faut avoir les bons cas d'usage, quoi.
Voilà, et puis tout le monde n'utilise pas le chatbot tous les jours, donc vraiment démontrer la valeur, et puis surtout expliquer que le chatbot ne va pas résoudre les problèmes, oui, de tout le monde.
Il a fallu faire une sorte de prompt académie, enfin apprendre les gens à faire des prompts, ou alors,
oui,
vraiment
on
très
a,
naturellement
on a,
non, j'arrive, non, je suis embauché demain, je peux poser mes questions et on y va.
C'est très simple de poser, ouais, des questions. En fait, après, on a une formation, comment faire des prompts pour avoir les meilleures, ouais, réponses possibles. Et donc, on a une petite formation e-learning dessus.
Alors, côté Mathieu Levis, côté Saint-Gobain, donc optimisation des processus, aujourd'hui utilisé par beaucoup plus de monde. Enfin, je prends un peu le parallèle avec
oui, effectivement, donc on a étendu l'utilisation du process mining et donc de l'outil Celonis, là où on était plus sur une utilisation par les auditeurs. Maintenant, ce sont les métiers qui utilisent. Donc, différents types de profils, hein, des financiers, bien sûr, mais aussi de la supply chain, des services clients, etc. Tout type d'usage qui sont applicables au process mining.
Et puis, j'imagine, vous êtes tous les deux dans des groupes internationaux, mais voilà, toutes les sociétés du groupe sont associées à, cet écosystème. Vous avez déjà identifié le potentiel de valeur que ça pouvait apporter, ça, cette...
Oui, alors, étant moi-même financier, c'est des KPI que l'on suit de manière très rapprochée. Bon, ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions de potentiel. Alors, ça va être des gains, ça peut être des gains en revenus, ça peut être des gains en productivité, en réduction de la dépense. Voilà, tout un tas d'indicateurs qu'on suit et qu'on essaye de chiffrer à l'euro pour pouvoir suivre la réussite du projet.
Oui, avec un peu, ça rejoint un peu les critères de qualité, de performance. Eh bien, merci d'être venu nous parler tous les deux de cela. Nathalia Philogène, donc directrice du contrôle interne Schneider Electric, chez Schneider Electric, et donc sur ce chatbot financier. Je pense que voilà, vous allez faire des précurseurs, j'imagine, et puis dans l'optimisation de processus. Merci à Mathieu Levis d'avoir été avec nous, directeur du Centre d'Excellence Process Mining. Et c'était dans le cadre donc des prix de la digitalisation de la fonction finance. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Puis nous, on va marquer une courte pause. On va continuer à parler IA avec nos débriefeurs. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à raconter. Tiens, sur le business model des IA aussi. On va en parler avec eux. C'est tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business. Ce week-end sur BFM Business, sortez de votre boîte avec Erwan Morris.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte. Tous les week-ends sur BFM Business, des DRH, des acteurs de la transformation des entreprises vous amènent et vous présentent les dernières solutions et les dernières innovations pour vous rendre plus heureux au boulot.
Happy Boulot, présenté par Erwan Morris, tous les vendredis à 23h30, samedi à 10h et dimanche à 17h sur BFM Business.
BMW. Envie d'une BMW d'occasion certifiée par des experts et disponible immédiatement ? Rendez-vous chez votre concessionnaire BMW et profitez d'un taux exceptionnel de 0,9% sur une large sélection de modèles.
Crédit au taux de 0,9%, offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2024, limité à 875 dossiers sous réserve d'acceptation par BMW Finance. TAEG fixe sur 48 mois, 320€ par mois pour 15 000€ maximum emprunté. Montant total du 15 427,24€. Conditions sur bmw.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 339. Et chez Canal, en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
On va vous donner de plus en plus rendez-vous avec ces débriefs de l'IA sur la cyber. Et aujourd'hui, on parlait, et puis même sur la transformation numérique des entreprises plus globalement. Et là, aujourd'hui, on parlait d'IA, et notamment d'IA générative. Il se passe beaucoup de choses, évidemment. On va demander à nos experts d'analyser tout ça, de débattre autour de tout ça. Merci d'accueillir Alain Goudet. Bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Alain, merci d'être avec nous, directeur général adjoint de Neoma Business School. Et puis alors, un fervent, hein, on le disait hors caméra, si vous allez sur X Twitter, Alain vous donne chaque semaine un peu les grandes actus. Donc on peut rester au courant de tout ça. À tes côtés, Emmanuel Vignon, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Emmanuel, président de Sicara, qui construit des produits hors data, IA, enfin voilà, si vous voulez bâtir, vous posez plein de questions, allez voir Emmanuel. Et puis Eric Campagny, bonjour Eric.
Bonjour Frédéric.
Co-fondateur de Le Pont, et là, là c'est pour enseigner la data, l'IA et la cybersécurité, sujet aussi important. Messieurs, on a plusieurs sujets là, il y a Nvidia évidemment à sa capitalisation boursière, et moi il y avait une question qui m'interpellait un peu en ce moment. Évidemment on voit OpenAI, on voit Gemini de Google, on voit Anthropic, on a d'autres Mistral, et puis on voit arriver des Stability, on voit arriver des Perplexity. Et ma question, je mettais un peu au milieu de la table, c'est est-ce que toutes ces IA vont trouver leur business model ? Parce que lorsqu'on voit les entreprises, elles sont pas toutes à dépenser autant que les investisseurs, que ce que se prennent en investissement toutes ces entreprises. Je sais pas, Alain, qu'est-ce que...
Bah, on est sur le schéma typique d'un marché en construction, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément d'acteurs sur la ligne de départ avec des niveaux d'investissement effectivement, hein, tu le rappelais, qui sont colossaux, hein, chez certains d'entre eux, hein, Microsoft OpenAI, c'est un deal, en tout cas la partie officielle, à 13 milliards de dollars. Ces investissements sont nécessaires pour l'entraînement des modèles fondations, donc effectivement les GPT, les Google Gemini, etc. Et après va venir de fait la rentabilisation de ces investissements. Oui. Après, dans les noms que tu évoquais, tous n'ont pas le même positionnement, oui, hein, puisque d'autres vont être plutôt un point d'accès, je pense à Perplexity, qui est plutôt un point d'accès vers un éventail de modèles. D'autres misent à la fois sur de l'open source et du modèle propriétaire. Enfin, voilà, on voit que les uns et les autres cherchent comme ça le modèle d'affaires le plus efficace. Ça, c'est pour les faiseurs de technologie. Puis de l'autre côté, en fait, au niveau des entreprises, possiblement clientes, bah là aussi, en fait, hein, on est dans une année d'exploration, hein, avec finalement tester un certain nombre de choses.
On a eu juste identifier. Avant, on avait un chatbot financier chez Schneider Electric, par exemple,
oui,
pour le contrôle interne.
Bah, c'est effectivement un bon exemple, c'est-à-dire que voilà, les entreprises essayent de mettre en place des tests pour comprendre la valeur que génère en fait ce type de technologie, quel est l'apport réel, et derrière, commencer à réfléchir sur les mécanismes d'adoption qui ne vont pas de soi.
Donc ça veut dire, Emmanuel, qu'aujourd'hui il faut regarder les investissements, mais il faut pas tout de suite condamner des entreprises en se disant on comprend rien à leur modèle, on voit pas où est leur business model. Tout le monde est un peu en train de tâtonner, c'est ça?
Oui, je pense que tout le monde est en train de tâtonner et c'est pas la première fois. Twitter a jamais véritablement trouvé son business model. Pour autant, Twitter apporte de la valeur aujourd'hui. Moi, je pense que pour avoir un business model, il faut un problème. Un problème auquel l'humanité est confrontée ou auquel les entreprises sont confrontées. Il faut un sentiment d'urgence. Il faut une solution qui adresse ce problème et il faut des gens qui sont prêts à payer. Mm-hmm. Franchement, quand je regarde l'IA générative, je trouve qu'on coche toutes les cases. Le problème, c'est ça peut être la somme de documents que on doit lire pour être en conformité dans une banque. Le sentiment d'urgence, c'est que bah, si on le fait pas, on a des risques d'amende, on a des risques de fuite de données, on a des risques de même des risques
même de réactivité par rapport à des demandes de clients.
Exactement, des risques de réactivité et aussi des risques de mettre en péril l'entreprise si on prend des mauvaises décisions. Donc on a ce sentiment d'urgence. La solution, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'IA. Et je peux vous assurer que ça marche quand même rudement bien, ce qui est sorti là il y a 18 mois. Alors bien sûr, on peut l'améliorer, il y a des problèmes d'hallucination, tout ça, mais quand même, ça marche rudement bien. Et des gens qui sont prêts à payer, moi je suis prêt à payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, chez Sicara, on a ouvert un accès à GitHub Copilot et à ChatGPT pour l'ensemble de nos collaborateurs, et on apprend à l'utiliser petit à petit. Et donc on est prêt à le payer.
Donc on est, Eric, dans cette phase d'apprentissage.
Oui, on est dans cette phase d'apprentissage et on a vécu une surexcitation là quand même sur les 18 derniers mois. Les entreprises commencent de plus en plus à se poser la question du business model, comme tu dis, de value for money. Qu'est-ce que je dois investir et qu'est-ce que ça peut donner? Des études assez intéressantes de l'IDC qui montrent qui a été faite en septembre dernier, qui montrent que le retour sur investissement serait de 250% par rapport à un euro investi et ce que tu peux en retirer. Une même étude faite par IBM, 4 mois plus tôt, montrait qu'on était à 5-6%. Donc on voit bien qu'il y a encore une difficulté à dire quelle est la valeur générée. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la surexcitation côté éditeur, ça c'est une chose, la question de la perplexité côté entreprise, mais les consommateurs finaux, il y a l'étude du podium de la relation client qui est sortie là il y a un mois, qui montre que 56% des consommateurs s'attendent à avoir une expérience client transformée par l'intelligence artificielle. Oui. Donc la combinaison des deux fait que naturellement les entreprises vont se positionner.
Oui, il y a un moment où on voudra tous poser je fais mon clavier, mais ce sera peut-être à la voix, des questions à son chatbot financier, et puis il nous donnera toutes ces réponses, et donc il faut que les banques se s'adaptent.
Et la logique de verticalisation métier et de compagnon va amener, comme tu disais, Emmanuel, le fait que je vais avoir envie de payer pour ce service-là,
avec
pour la qualité de ce service.
Avec des ROI plus courts, sans doute, aussi. Enfin, faut pas tout de suite se lancer,
Emmanuel, je sais pas si c'est forcément
un grand projet informatique. Voilà, on part sur 3 ans. J'avais le patron de SAP qui était au début de cette émission. Voilà, quand on installe SAP, on s'engage pour plusieurs années. Là, il y a des choses, parfois, ça peut être un cas d'usage très précis. Hop, ROI en 3 mois.
En fait, il y a un changement fondamental sur les équilibres financiers ou les business models qu'apporte l'IA générative. C'est que avant, l'IA conventionnelle, c'était cher à construire parce qu'il fallait entraîner le système. Et donc, on prenait de la donnée, on labellisait de la donnée. Et ça, c'était des phases qui étaient longues. On le faisait spécifiquement pour un besoin métier. Et après, le coût de faire fonctionner, le coût de run, on appelle ça, le coût de faire fonctionner le système était pas très cher. Mm-hmm. Parce qu'on n'avait pas besoin de gros GPU, de graphical process unit. On pouvait faire tourner ça sur des microprocesseurs assez classiques, des CPU. Mm-hmm. Avec l'IA générative, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est plus facile de construire quelque chose parce que j'ai moins besoin d'entraîner spécifiquement. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais j'ai moins besoin de le faire. J'ai un modèle qui arrive déjà avec une bonne compréhension du langage.
Par contre, une puissance de calcul importante.
Et par contre, une puissance de calcul pour le faire tourner. Et donc les ROI, disons que le temps pour avoir quelque chose en prod est peut-être plus court. Mais je ne serais pas aussi catégorique sur le fait que le ROI est beaucoup plus court. Parce que si le coût de run est plus élevé, ben je pense qu'il y a des nouvelles questions que les entreprises doivent se poser. Parce que si j'ai quelque chose qui coûte cher à opérer pendant 20 ans, ben en fait, le ROI, il n'est peut-être pas si élevé que ça. Mm-hmm. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est que je pense qu'on va rentrer dans une phase où on va beaucoup plus se poser la question de savoir comment j'arrive à faire tourner mes systèmes d'IA générative sur des architectures et des infrastructures qui sont moins chères que le paiement au token avec OpenAI.
Ah oui, c'est là où on voit un peu la recherche un peu qu'on tous, hein, c'est Mistral et tout ça, de trouver ces bons business models. Alors, tu l'as abordé rapidement, Emmanuel, les GPU. Et là, je voulais avoir un petit peu votre sentiment par rapport à NVIDIA qui est passée là cette semaine, première capitalisation boursière quand on parle, donc à plus de 3300 milliards. Il y a un an il pesait 1000 milliards, hein, et il y a 20 ans il était presque mort, hein, donc voilà, c'est quand même une histoire. Alors on sent quand même quelques niveaux d'inquiétude, hein. On entend même Jensen Huang qui dit bon, est-ce qu'on va pouvoir continuer à offrir autant de data. Il a quelques soucis sur la confidentialité des data, faut qu'on dépose, et puis la consommation de tout ça, et puis même lui comme d'autres se pose la question de l'éthique. Où est-ce qu'on va aller si vite, Alain?
Non, mais ces questions sont tout à fait légitimes, hein. La première des questions pour Nvidia, c'est jusqu'où cette capacité à croître, hein, puisque la demande est juste stratosphérique. On est sur une entreprise industrielle, hein, qui doit être en capacité de produire les GPU en question.
Matériel, hein, c'est quand même dingue de voir première capitalisation mondiale, c'est du matériel.
Et personne n'aurait
forcément. Il y a du logiciel évidemment derrière, mais c'est.
Oui, et personne n'aurait forcément parié là-dessus justement au départ, hein, puisque les deux autres. Grosse capitalisation du top 3, hein, c'est du pur logiciel, ouais, Apple, hein, avec Apple et Microsoft. Donc, il y a des vrais sujets du coup industriels à résoudre, mine de rien, d'accompagnement aussi de la demande de puissance, et puis de la concurrence qui apparaît, parce que tu l'évoquais, hein, on a aujourd'hui des LPU, Language Processor Unit, qui sont finalement des puces encore plus spécialisées pour les LLM, qui délivrent de la vitesse qui est de l'ordre de 2 à 4 fois supérieure à la capacité en token par seconde par rapport au GPU. Donc voilà, on voit bien que on a une course à la vitesse.
C'est un peu là-dessus que Mistral bâtit son argument, enfin, et puis même ses performances, et être un peu plus frugal par rapport à l'utilisation.
Et ça, c'est l'autre aspect, parce que moi, j'interviens énormément sur ces sujets-là, et la question de la frugalité ou des la considération environnementale autour d'un usage massif des intelligences artificielles et spécifiquement des IA génératives, c'est une vraie question. C'est-à-dire que évidemment se pose la question de l'usage, pourquoi on utilise ce genre de choses, et bon, il y a des usages qui vont être un peu plus pertinents que d'autres, mais surtout on voit bien que on a de l'optimisation de hardware, hein, qui se produit pour être plus frugal, on a de l'optimisation de modèles qui se produit avec les small language models, oui. En opposition aux LLM qui sont les large language models, on a également en fait des optimisations.
On parle même des large action models maintenant avec justement la start-up H là, dont on connaît peu de choses en ce moment, mais on sait qu'ils travaillent sur ce sujet.
Ouais, effectivement, mais voilà, on a cette course à l'optimisation, y compris dans la gestion même des espaces mémoire, hein. Apple par exemple cherche à optimiser comment embarquer les informations nécessaires pour maximiser la qualité de réponse en s'appuyant sur du small language model, ce qui permettrait en fait de faire tourner des compagnons IA directement sur nos téléphones. Voilà, donc il y a plein de choses en fait qui sont en train de se produire. Et Nvidia, bah, maintenant, a presque le mauvais rôle, c'est-à-dire le rôle du leader. Et rester leader, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe dans le champ de l'innovation. Donc, on va voir ce que ça donne dans les prochains temps.
Et on va voir la concurrence qui s'organise, hein, parce que les Intel et AMD, ils ne vont pas regarder passer. Mais même les Qualcomm, même les Samsung, ne vont pas regarder le train passer.
Ils vont pas regarder, c'est un peu le géant au pied d'argile, parce que ça s'appuie quand même effectivement essentiellement sur l'accélération de la demande avec les LLM. On est quand même en train de se dire que pour pousser l'intelligence artificielle, pour qu'elle soit un peu plus intelligente, il faut sans doute dépasser ces modèles LLM. Mm-hmm. Donc, en fait, si on regarde les différents étages de la fusée, tout en haut, il y a les besoins clients, effectivement, les besoins entreprise. Juste en dessous, il y a le modèle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de LLM. On travaille sur des générations ensuite qui demandent une architecture différente, qui s'appuie sur une partie infrastructure physique différente. Et donc, cette génération de puces, il y a Geoffrey Hinton aussi, qui a le prix Turing, ancien Google sur le sujet, qui travaille sur ces puces analogiques. Donc, cette préoccupation-là, elle commence tout juste à émerger côté entreprise. Maintenant, il y a des tels profits en face, on en parlera tout à l'heure sur la taxation, etc. Il y a des telles perspectives de gains, que je suis assez inquiet sur le véritable travail de fond pour réduire l'impact environnemental de l'intelligence artificielle.
Oui, on va y revenir. Emmanuel, toi, sur le sujet. Je crois que c'est ça qui avait envoyé, comme quand on avait un peu préparé le sujet, tu dis, que faire si Yann Lequin trouve une nouvelle archi? Est-ce que...
Ce qu'il y a, c'est que l'architecture, le développement qu'on a sur les process units qui sont spécifiquement adaptés au modèle qu'on a aujourd'hui, quelque part, ça peut figer une certaine forme d'architecture. Donc on a aujourd'hui l'architecture
comme on l'a vu x86
par exemple, voilà, exactement, PC, sur ces exemples là aujourd'hui l'architecture c'est les transformers. Moi la question que je me pose et donc j'ai pas la réponse forcément parce que c'est très dans l'expectative, mais la question que je me pose c'est est-ce que le fait que Nvidia investisse dans des puces qui sont spécifiquement dédié à faire tourner des modèles de type Transformers, est-ce que ça va pas figer la recherche dans une architecture de type Transformers? Et cette architecture de type Transformers, elle est très critiquée par certaines personnes, dont Yann Lequin, qui dit, bon, en fait, on va vite arriver à un plafond de verre, on n'arrivera pas à faire des systèmes qui sont véritablement intelligents dans leur capacité à résoudre des tâches complexes ou des choses comme ça. Ça va être intéressant. Et si ça se passe, Nvidia, et tous les gens qui développent des composants spécifiquement sur Transformers ne toucheront peut-être pas autant de fruits que les investissements qu'ils ont consentis aujourd'hui.
On irait vers des plus petits modèles, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, pour des performances équivalentes.
Les petits modèles, ils seront toujours sur des architectures Transformers. Donc ça marcherait bien. En revanche, si demain j'ai une nouvelle architecture qui n'a rien à voir avec les Transformers et qui permet de faire des choses encore plus incroyables, je me pose la question, est-ce que les puces que Nvidia construit aujourd'hui et qui mettent quand même un certain temps à arriver sur le marché, à être stable, à ne pas avoir de bugs, à la fois sur la partie logicielle et la partie matérielle, est-ce que ces puces permettront de supporter des potentielles nouvelles architectures? Qu'il y a un combat qui s'oppose au niveau de la recherche sur ce sujet.
Ce qui est intéressant, c'est que même les chercheurs d'OpenAI ont mené une étude là et ont montré que depuis 2012, le besoin en capacité de computing a doublé tous les 3,5 mois. Là, on était plutôt sur les 2 ans jusqu'avant.
Donc la loi de Moore
elle est complètement balayée.
La puissance.
Et il y a des approches qui sont de se dire, finalement, peut-être qu'on peut faire travailler les LLM actuels. Il y a un garçon qui s'appelle Andrew Ng qui travaille sur ce qu'on appelle des workflows agentiques. C'est quoi? C'est, je fais travailler même la version 3.5 de ChatGPT, mais je lui donne différents rôles. C'est un peu comme si tu écrivais un livre, t'as un auteur, t'as quelqu'un qui relit, t'as l'éditeur, etc. Et avec une puissance de calcul type 3.5, tu peux arriver à faire des choses quasiment équivalentes à la 4.0. Donc c'est à 4.0. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que réflexion sur l'architecture, réflexion sur l'utilisation des LLM, et comment est-ce qu'on va au-delà des LLM. Je trouve hyper intéressant l'initiative de François Chollet là, qui a été lancée la semaine dernière, qui dit, je lance un prix, $1 million, on va dire que c'est pas beaucoup, vu les chiffres qu'on manipule,
mais quand même,
pour imaginer comment est-ce qu'on pourrait aller au-delà des LLM aujourd'hui.
Et puis on verra après tout le rôle open source. Si on fait un petit retour avant de revenir, parce que j'aimerais bien qu'on parle quand même de cette taxe du FMI là, qui préconise pour combler notamment les impacts écologiques. Alain, on est à 18 mois d'IA générative, enfin connu parce que évidemment les chercheurs travaillent depuis plus longtemps dessus. Si on regarde les impacts économiques, organisationnels dans les entreprises, est-ce qu'on peut dire que déjà la productivité elle est au rendez-vous?
Alors, oui et non.
On revient un peu à notre premier sujet.
On est vraiment dans une phase, moi je l'avais annoncé assez tôt, que 2024 allait être une phase un peu de consolidation. C'est-à-dire qu'on a eu un progrès technologique important, avec l'arrivée de 3.5 puis de 4 en termes capacitaires, avec des complexités, on l'évoquait rapidement, les LLM font de l'hallucination, ce qui pose énormément de problèmes, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vérification de ce qui est dit. La vérification aujourd'hui, elle peut rarement être automatisée, donc on a toujours besoin de l'humain. Ça, c'est pour rassurer tous ceux qui sont très inquiets pour leur métier. En fait, pour le moment, on n'est pas dans une disparition majeure, colossale de tous les métiers. En revanche, on est dans une transformation profonde. Et là, on attaque la partie du non, parce que qui dit transformation dit évidemment évolution des habitudes de travail, des routines, des modes de travail, des workflows, donc la manière dont une organisation va travailler. Et ça, ça demande du temps. Ouais. Et ça demande du temps parce qu'en premier lieu, il faut évidemment former sur ce sujet-là. Et c'est là où il faut distinguer un petit peu les choses, parce qu'on voit plusieurs aspects en termes d'usage. Si on regarde plutôt les jeunes, les 18-24 ans, on est sur un usage en gros déclaratif de l'ordre de 70% des 18-24 ans qui disent « moi j'ai utilisé une IA générative ». De l'autre côté, les plus de 35 ans, ce qui voudrait dire qu'on est âgé au-delà de 35 ans dans le domaine de l'IA,
les seniors,
on est plutôt autour de 20%. Donc on voit bien qu'on a déjà un fossé générationnel dans le déclaratif. En revanche, quand on regarde l'usage réel, en fait, il s'avère que, et ça c'est une étude de Oxford et Reuters, sur l'usage réel, on a la moitié des jeunes qui disent en fait « mais moi je l'utilise une fois par mois ou moins ». Donc en fait, on n'est pas du tout. Enfin, il y a une espèce de déformation là dans l'inconscient collectif. On n'est pas sur un usage massif partout tout le temps.
Sur Word, sur Excel, et ça,
on en est encore très très loin. Et moi, j'interviens régulièrement en entreprise pour justement accompagner ce mouvement-là. Et effectivement, le constat, c'est que des gens ont utilisé globalement, ont testé au moins une fois. Ça, y a pas de problème. Il y en a beaucoup. En revanche, sur un usage quotidien pertinent avec une recherche réelle de performance, là, on tombe plutôt à 6,
oui, mais 6, 8, ouais, on peut avoir un œil un peu différent, c'est que ça ne fait que 18 mois.
Bien sûr.
Et tu te souviens de ce graphe qui montre le temps qu'il faut pour atteindre 1 million d'utilisateurs. ChatGPT a battu à plate couture toutes les innovations technologiques qu'on a vues sur les 20 dernières années.
Mais il faut continuer, il faut entretenir, quoi. C'est ça, un peu, entretenir cet usage.
Non, mais évidemment, en fait, il faut entretenir, il faut former les gens. Ça se fait pas. Enfin, on est 8 milliards sur la planète. Il faut du temps pour que 8 milliards de personnes utilisent, au même titre qu'il a fallu du temps pour que 8 milliards de personnes utilisent un smartphone. Mm-hmm. Mais ça va quand même extrêmement vite, en fait. Ça va super vite. Moi, dans mon quotidien, je vois quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT. Ça veut pas dire que les choses se font automatiquement, et je pense que Alain a certainement des choses intéressantes à dire, enfin Eric pardon, a certainement des choses à dire sur la partie formation. Il faut former les gens, c'est important, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas automatiquement. Il faut de la méthode aussi pour réussir à construire des fonctions, pour réussir à transformer des fonctions qui sont stables et figées depuis les 40 dernières années. Je voudrais faire un point là-dessus. Depuis que l'intelligence artificielle existe, l'intelligence artificielle conventionnelle, on a l'habitude de prendre un processus d'entreprise, de le décomposer par étapes et de dire c'est l'étape 3 qui va profiter de l'intelligence artificielle. Cette méthode, elle ne permet pas d'avoir des gains importants. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est regarder la fonction. Il faut prendre du recul sur l'intégralité de la fonction. Par exemple, la fonction finance. Et réinventer des choses au niveau de la totalité de la fonction finance. Si on fait pas ça, on va se retrouver dans les mêmes travers que 2015, c'est-à-dire qu'on va dépenser des sommes astronomiques pour optimiser l'étape 3 d'un processus qui en compte 17 étapes, et à la fin on va dire tout ça pour ça, ça coûte cher et j'ai pas...
Surtout quand on va voir son comex, qu'on lui dit voilà, j'ai mis en place un outil, ça me résume les réunions et ça me trie mes mails,
c'est ça qui change la façon.
Dites-moi en plus, avant que je signe un peu coche avec Eric sur la formation.
Emmanuel a raison, effectivement il y a un vrai enjeu d'acculturation. Il y a une étude du BCG dont tu avais parlé sur ce plateau-là qui montrait que la France, notamment, était un des pays qui avait le plus peur, au niveau des salariés, du déploiement de l'intelligence artificielle. Donc, il faut expliquer de quoi est-ce qu'on parle véritablement, quelles sont les forces, quelles sont les limites. Ça, c'est la partie acculturation. Et après, je rejoins complètement Emmanuel, il faut réfléchir de façon complètement différente, de faire confiance aux salariés, de faire confiance aux collaborateurs. Tu avais les directeurs financiers juste avant là, de leur faire confiance et de leur dire voilà cet outil-là, il est absolument phénoménal. Maintenant, à vous d'inventer l'outil qui va avec et de créer, d'automatiser toute une série de tâches très élémentaires, mais qui vont avoir un impact sur la productivité de l'entreprise absolument dingue. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il y a une réflexion sociale au sein de l'entreprise et d'un point de vue très RH, si tu m'automatises toutes les tâches élémentaires, au niveau de mon job à moi, dans la motivation que je peux avoir sur mon job, je me retrouve à avoir que les tâches les plus complexes Et ça crée un surcroît de stress dans l'histoire. Mm-hmm. Donc il y a une vraie réflexion sociale au sein de l'entreprise à déployer aussi en parallèle de ce qui est fait dans chacun des
métiers. J'ai connu dans une administration où justement tout le monde était d'accord pour simplifier le traitement des dossiers les plus faciles, et au bout de 3 semaines, tous les agents ont dit pour diverses raisons, de dire il y a des dossiers, on les emmenait chez nous parce qu'on faisait ça en télétravail en fin de semaine, on calmait un peu le jeu, et puis là on est que sur ces dossiers complexes. C'est vrai que ça change tout.
Que sur ces dossiers complexes et sur une vraie question aussi, création de valeur. Oui. Comment je reconnais la création de valeur d'un collaborateur aujourd'hui surdopé par l'intelligence artificielle?
Et puis il y a ce souci là aussi, hein, on fait beaucoup de ce qu'on appelle l'époque, on met beaucoup de projets, et puis il y a un moment, il faut passer à l'échelle, et c'est là où on se dit j'irai aussi vite avec 2 stagiaires.
Tiens. Oui, mais c'est une démarche organisationnelle, hein, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord en fait, hein, c'est un processus d'adoption qui prend du temps, il y a énormément de choses à reconfigurer, que ce soit les organisations, les transformations des comportements et des habitudes, les business model, les manières de faire, etc. Mais en fait, tout ça, faut le tester. C'est-à-dire que là, on est entre experts, donc on voit à peu près où on peut aller et ce qu'on peut imaginer. Sauf que la plupart du temps, une fois encore, dans l'entreprise, les personnes ne sont pas nécessairement extrêmement alertes par rapport à un usage dans un contexte professionnel. Oui. En revanche, qu'il y a eu des tests dans la sphère personnelle, il n'y a aucun débat là-dessus. Moi, c'est un peu je pense qu'on est en train de revivre un peu ce qu'on a eu avec Internet, finalement, hein, avec une arrivée de technologie qui va mettre plusieurs années à se structurer et à devenir mature.
Ou les apps mobiles, on fait plein de choses d'un niveau perso, puis quand on arrive dans l'entreprise, il faut aller sur le site web, dans le portail, lancer je ne sais quoi.
Ça met beaucoup de temps à arriver dans le B2B.
Et tu as eu 5, 6, 10 versions d'une app mobile avant d'arriver sur quelque chose d'efficace. On va vivre à peu près le même type de scénario.
On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets, il nous reste plus beaucoup de temps. Enfin, on va faire 1 heure la prochaine fois, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de choses à raconter. Juste un mot, le rapport du FMI, Eric, qui préconise que l'IA, faut taxer l'IA pour combler les impacts écologiques notamment.
Oui, alors il dit ça, il dit aussi
on parle de revenu universel aussi,
une recommandation, voilà. Etc. mais pose vraiment toute la dimension business, éthique, sociale et environnementale liée à l'IA. Donc ce qui fait une taxe carbone, si la question c'est est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, évidemment comme toute autre industrie, c'est assez normal dans la mouvante dans laquelle on est aujourd'hui. La réflexion de fond sur comment est-ce que je protège les salariés par rapport à cet impact-là, on voit que la directrice générale du FMI dit ça touche 40% des salariés, voire 60% dans les pays comme la France. Mm-hmm. Donc oui, se pose une question de protection, et ensuite on pourra pas protéger tout le monde, donc quel investissement on fait en termes de rémédiation, et c'est une question politique et de politique générale des gouvernements et de l'Europe et des différentes institutions pour que c'est un vrai impact, encore une fois, par rapport à la perspective de gain qui surexcite à la fois les entreprises et les éditeurs.
Eh bien, monsieur, on a fait le teasing pour la prochaine émission, parce que je pense qu'on va faire notre petit groupe, là, on va se revoir assez souvent, et peut-être sur une durée un peu plus longue pour parler de tous ces sujets, parce qu'évidemment, on le voit, hein, il y a de la techno, il y a de la sociologie même, et puis de l'organisation, de la souveraineté, enfin, il y a beaucoup de sujets autour de ça. Merci à tous les trois, Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School, Emmanuel Vignon, président de Sicara, et Eric Campanini, cofondateur de Le Pont. Merci d'avoir été avec nous, et on va se retrouver, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session, une nouvelle émission Tech & Co Business, et puis sinon on se retrouvera ensemble, on va revenir régulièrement sur ces débriefs et sur tout ce qui se passe dans l'IA pour les entreprises. Allez, excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.